Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, ou l'agriculture racontée par ceux qui la font. Pour la deuxième partie de ces paroles rurales consacrées à la ferme des Trois Pastres, Guillaume nous fait visiter la bergerie, la porcherie et l'atelier de transformation.
Tu vois, les brebis sont en face là-bas, à l'herbe.
Ah ouais, d'accord. Sur la colline d'en face, hein, environ 500 mètres.
On a commencé à les, sortir.
À les sortir, oui, c'est vrai.
Depuis vendredi, là, ouais.
On est le 1er mars, quand même.
Oui. Et nous, ça fait 2-3 ans que les brebis, ici, au vu des hivers assez doux qu'on a, on a l'herbe qui démarre assez vite. Hein, ouais. Et on sort les brebis assez rapidement. Ça fait 2-3 années que vers le 25 février, par là, les brebis sont dehors.
Et tous ces silos là que je vois alors.
Et donc ces silos, ça c'est l'espace cuisine, on va dire, de l'exploitation. C'est là où on fabrique tout l'aliment pour les cochons, pour une partie, et après pour tout ce qui est brebis et agneaux de l'exploitation. Parce que moi aussi, je vends très très peu d'agneaux. Je garde quasiment tous les agneaux de mon troupeau que je fais grandir, que j'engraisse comme on dit, et que je vends après en découpe, vente directe, quoi.
D'accord.
Sur le marché, sur les magasins de Montpellier, voilà, quoi. Mm-hmm. On a même un magasin, enfin, on a un point de vente aussi dans les Cévennes, ça j'en avais pas parlé, en plein fief de l'oignon doux des Cévennes, là-bas.
D'accord, à Lézignan.
Non, Lézignan, c'est dans les Corbières.
Ah oui, Lézignan, c'est la Cève,
L'oignon, c'est à côté du Vigan, en fait,
d'accord,
dans les Cévennes.
D'accord.
C'est l'oignon doux des Cévennes, qu'ils appellent,
d'accord,
ça en a aussi. Et donc là, c'est là où on stocke toutes les céréales, donc que j'achète en priorité à des voisins, que j'en produis un peu, mais moi, je ne suis pas autosuffisant en céréales pour nourrir tous les cochons que j'ai.
Ouais.
Donc j'achète la matière première, mais j'essaye, pareil, dans un souci de distance et tout, d'acheter le plus court possible. Ouais, quoi.
Ah, la bergerie. Donc, ça y est, ils sont déjà nés, les petits ?
Alors nous, on est sur une période de production, voilà, on est fin février et la bergerie, il y a encore pas mal d'agneaux,
ouais,
d'agneaux, de jeunes agneaux, quoi, on va dire, sous la mer.
Ouais.
On traite depuis une semaine, mais nous, les mises bas, en fait, ça va du 15 février, du 15 janvier, pardon, j'ai dit une bêtise, du 15 janvier jusqu'au environ fin février, début mars, là, on est sur les dernières bêtes qui sont en train de mettre bas.
D'accord.
On étale un maximum aussi pour avoir des agneaux un peu étalés dans le temps et pas trop resserrés. Comme ça, je fais plusieurs lots d'engraissement et ça me permet d'avoir, de pouvoir servir mes clients plus tout au long de l'année, quoi.
Et alors, combien t'as de bestiaux à peu près, là ? Tu le sais ?
Donc là, nous, on a entre 320 et 340 brebis adultes.
Ouais.
Et après, avec un ratio de productivité de 1,5 pour,
d'accord,
les agneaux. Donc à peu près, bon an, mal an, quand elles ont toutes mis bas, ça nous fait 500 agneaux produits par an.
D'accord.
Sur ces 500, on garde une centaine de femelles pour le renouvellement de notre troupeau laitier. Donc grosso modo, ça fait dans les 400 agneaux, dans les 400 agneaux commercialisés après sur le reste de l'année, quoi.
D'accord. Et elles sont inséminées ou tu as des béliers ?
Alors,
tu fais venir les béliers ?
Je fais les deux. Ouais. On insémine quand même une partie du troupeau, la moitié, environ 150 mères. Hein. Comme ça, on bénéficie d'une génétique assez bonne à maintenir un certain niveau de génétique dans le troupeau pour la production de lait de brebis quand même,
ouais,
de nos mères. Et après, le reste, c'est que de la monte en main, enfin, qu'on appelle la monte en main, c'est-à-dire avec des béliers, quoi.
Mmh.
On a dans une autre bergerie, au moment de la mise bas, on les enlève. On les a dans une petite bergerie à part, là-bas, dans les vieux bâtiments. Et on a 8 béliers, exactement.
Ouais.
Donc voilà.
Et voilà les cochons. Alors, c'est que des mâles ? Non.
Non, j'ai un peu de tout, il y a des mâles et des femelles.
De toute façon, ça ne change rien
après,
pour la qualité de la viande.
Ouais, les femelles, il faut faire attention au moment de l'abattage qu'elles ne soient pas à une chaleur, quoi.
Ouais.
Parce que ça peut éventuellement générer des charcuteries qui prendraient mal le sel ou tout ça, là.
D'accord.
Mais bon, voilà. Après, je crois une majorité de mâles, mais il y a quand même des femelles dans le lot.
D'accord.
Là, on en a reçu ce matin dans le lot d'à côté. Voilà le poids des cochons que je reçois là, 30 kilos. Mais il faut entre 30 et 40 kilos.
T'en commandes de combien à chaque fois? Des lots de combien?
Tu commandes des lots de 25 ou 50 ou 60 porcs que je mets en casier de 25 ou 30. Après, je dédouble. Là, c'est les plus petites cases que j'ai. On va aller voir à côté, j'ai des cases plus grandes.
Ouais.
Et dans les casiers plus grands, j'en mets 60 d'un coup quand ils sont petits. Et après, je les redédouble.
D'accord.
Je les sépare.
Et bon. Alors, attends, tu m'as dit 30 kilos pour arriver jusqu'à 130 kilos.
Voilà.
Ça se fait en combien de temps à peu près?
Mais là, c'est des cochons, ils ont à peu près 3 mois d'âge.
Ouais.
À cet âge-là. Et après, pour les amener à 130 kilos, moi, je les garde à peu près 6 mois de plus sur place. Hein. Donc, en 9 mois, 9-10 mois, on a un cochon prêt, quoi.
Prêt à consommer.
Prêt à consommer, voilà.
Ils ont tout le temps de la nourriture.
Ils mangent quand ils veulent. On va dire qu'ils sont plus ou moins sur une alimentation à volonté, mais on régule la quantité. On sait que nos nourrisseurs ils contiennent tant de kilos d'aliments et que la case elle peut contenir tant de porcs. Et bon an, mal an, moi je les rationne à 3 kilos, 3,5 kg par porc par jour. C'est une quantité classique, normale d'alimentation. D'accord. Pour un cochon, pour qu'il se développe. Après, ils ont de l'eau à volonté.
Ouais.
Et après, c'est nous qu'on amène la paille une fois par semaine dans les box pour appailler et que voilà. Du coup, on va aller voir.
Allez, allons voir.
Les autres cases.
Ciao les cochons.
Il y en a d'autres.
Merci.
Cela, en fait, à côté, c'est le même principe que là.
D'accord. Oula. D'accord,
là, ceux-là... déjà, ils sont un peu plus gros.
Ouais, ils ont quel âge à peu près?
Mais ceux-là, ils arrivent presque en bout de course, on va dire. C'est les cochons qui ont à peu près 9 mois, quoi. Voilà.
Mm-hmm.
Là, je vais commencer à tirer la semaine prochaine pour l'abattoir, les plus gros. Là.
D'accord.
Là, il y a déjà des cochons qui commencent à plomber un peu, quoi. Ouais. 130, ils y sont, quoi. Ouais.
Ça a des super grandes oreilles, hein.
Ouais.
Je savais pas. Et c'est une race spécifique, ça, ou pas?
Alors là, le schéma génétique avec qui je travaille, ils travaillent avec des races plutôt maternelles au niveau de la souche mère,
ouais.
Qui sont des races communes que sont le large white ou le Landras français.
D'accord.
C'est des noms assez communs de cochons roses.
Mmh.
Et après, ils croisent ces truies à lui qui sont de cette race-là avec des races un peu plus conformées au niveau des mâles. Le nom des races, c'est Piétrin ou Duroc. Duroc, c'est une race des Amériques, qui vient des États-Unis, qui donne une viande assez rouge, donc de la couleur dans la viande, et qui procure un persillé aussi dans la viande qui est assez sympathique quoi, pour les charcuteries.
D'accord.
Voilà.
Un petit mot pour Radio Sainte-Afrique? Non, pas plus, non. Ils sont vachement curieux, ouais. Mais monsieur, vous voulez dire quelque chose peut-être? Ah ben, ils ont l'impression que je vais leur donner à manger là, non?
Ouais.
D'accord.
Voilà, donc d'accord. Ça c'est des anciens hangars qu'on a retapés pour agrandir et en fait, là je projette de faire notre bâtiment derrière parce qu'il me manque encore un peu de place.
Allez.
Il faudrait avoir quelques cases de plus pour avoir une meilleure rotation, que ce soit plus mieux quoi, voilà.
Donc là, à nouveau, une vingtaine par enclos, à peu près.
Là, oui,
là même un peu moins, peut-être.
Hein, ouais, non, on est à peu près sur la même base.
D'accord.
Ouais. On est sur la même base.
Oh, voilà. Ils sont agités. Bonjour, messieurs. Bon. Donc là, t'as trois enclos.
Ils sont un peu plus petits, ça, là. Ouais. Je les ai refait un peu plus petits.
Ah oui, c'est les petits, c'est les pitchous.
C'est les mêmes un peu que là-bas. Je les ai rentrés il y a une semaine avant les autres. Donc il y en avait 60, là, dans les deux casiers, 30 et
30. D'accord. Ils ont vachement l'instinct grégaire, quand même. Ils font les trucs en groupe serré.
Ouais.
Comme les vaches ou les brebis, quoi.
C'est ça. Mais bon, après, c'est à ces joueurs, dès qu'ils voient quelqu'un, ils se mettent à courir.
On dirait des petits chiens un peu.
Des fois, on s'inquiète, on est à côté là-bas, on les entend crier, mais c'est qu'ils se disputent pour le nourrisseur ou comment ça. Quand ils sont trois, là, il n'y a pas la place du quatrième, et le quatrième qui arrive, il se bagarre. Quoi.
Ils se blessent pas entre eux des fois?
ça arrive qu'il se mordit. Après, les attaques et les morsures, c'est signe qu'il y a un problème ou d'ambiance ou qu'ils sont pas... Enfin, voilà, qu'il y a un courant d'air ou il y a quelque chose qui les dérange. C'est, il l'exprime comme ça, par le fait de se mordiller, quoi. Ouais. Mais bon, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien.
D'accord.
Après, ils vivent en groupe. Hein. Par exemple, ceux-là, là, enfin, on peut les laisser jusqu'à la fin comme ça. Mais si ça nous prenait de vouloir ou d'en prendre un de là et de le mélanger à la case d'à côté, ils se feraient défoncer à côté.
Ah ouais, d'accord.
En fait, ils se sociabilisent entre eux dans le groupe qu'ils sont.
D'accord.
Après, dès que tu les mélanges d'un loup à l'autre, c'est pas comme une brebis. Une brebis, ça va pas savoir dans le troupeau, elles se disent rien. Mais alors, eux là, ils se bagarrent.
Ah, d'accord. Ils ont l'esprit communautaire.
Ah, oh. Ah ouais. Et ils se mordent à se venir.
Ah ouais, des fois ils se mordent jusqu'au sein, quoi.
Ah ouais. Et là, après, ici, on profite quand même d'une vue qui est quand même
assez sympathique. Ça, c'est sûr. Là, parce que vous êtes sur un promontoire, on peut dire, sur le sommet d'une colline.
On est sur une butte et en altitude, c'est 450. Ah. Mais c'est vrai que de ce côté-ci, on a un visuel.
Ah ouais, là. On voit Bournac, le Cambon.
Voilà, si on part à droite, là, à l'horizon, bon, c'est les contreforts du Larzac, là-bas, sur la droite. Et après, si on balaye face à nous, on a le relais de Boulogne. Là, on est plutôt sur le nord, direction Rodez, quoi. Et après, quand on continue sur notre gauche, on arrive à arriver... Le chapelet d'éoliennes qu'on voit là-bas, c'est Villefranche de Pana. Ah ouais. Donc là, on tire plutôt à partir sur Requista.
Ouais, le Ségala.
Et en fait, donc Requista, le Ségala, Albi, Carmo, carrément à l'opposé, quoi, de l'autre côté. Quoi. Albi, Carmo, enfin Carmo, c'est là, Albi, c'est là, et Requista, c'est là-bas.
Ouais, t'as une vue presque à 360 quand
presque,
tu fais ton
affaire. On a la chaise. Pour ça, d'être bien et de pouvoir... Enfin, on travaille dans des conditions, on ne s'en rend pas compte tous les jours, mais les gens qui viennent ici nous disent « Vous avez une chance avec la vue.
» avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur. Quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, s'évanouit. Avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules, à la galerie je farfouille, dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
C'est la partie cuisine,
d'accord.
La partie chaude, comme on dit, parce qu'on a deux lignes, une ligne chaude, une ligne froide.
Ouais.
Tout ce qui est découpe de viande et tout, c'est plutôt soumis à température basse, donc partie froide, réfrigérée, et ligne chaude, tout ce qui est cuisson, que ce soit par four ou par marmite, quand on travaille sur des produits en bain-marie ou autre.
Comment tu choisis les recettes de ce que tu prépares? De ce que tu transformes?
Ça, les recettes, au départ, on les avait d'un point de vue familial.
D'accord.
Moi, je suis issu du côté de ma mère, d'une famille où pendant, depuis tout gamin, j'ai tout le temps fait deux, voire trois cochons dans l'hiver chez mes grands-parents. D'accord. Parce qu'on le faisait pour tati, tonton et toute la famille. Le nôtre, celui des grands-parents, bon voilà, le truc classique, quoi. Et mon grand-père, historiquement, il tuait des porcs dans les fermes. Mm-hmm. Je veux dire, les recettes, elles viennent de ma grand-mère. Au départ, j'avais plus ou moins sorti un nom commercial de ma structure qui était la charcuterie de ma grand-mère. Mmh. Parce qu'en fait, c'était des recettes qui étaient issues de ma grand-mère.
D'accord.
Que ma mère a amenées, m'a transmises. Et en fait, c'est ma mère, par le biais de ma grand-mère, bon, qui est plus de ce monde, mais qui m'a transmis toutes les recettes. D'accord. Qu'on a. Quoi.
Donc, c'est les recettes familiales.
C'est les recettes familiales. On fait les choses un peu, comment on va dire, pas extraordinaire, mais des choses qu'on voit plus trop aujourd'hui, style on fait de l'estomac de porc farci. Mmh. Ça, c'est pas des choses qu'on voit couramment à une charcuterie, travailler l'estomac.
À Leclerc, tu le vois pas, ça.
Voilà, ouais, à Leclerc, on le voit pas. Après, on fait du Melsat. Ça, on connaît un peu plus, mais bon, voilà, c'est un de nos produits phares, le Melsat. Mmh. Parce que bon, nous, on était des gros consommateurs de Melsat de la famille. on sait bien le travailler, ce produit. Mmh. Puis après, on fait tout ce qui se fait dans un cochon, quoi. Mais bon, voilà, on fait des plats cuisinés pour arriver à valoriser tous les morceaux, des pieds de cochon cuisinés. Voilà, on fait des pâtés en croûte, on fait tout un tas de choses.
Donc, ouais, là, dans un four tout neuf, est en train de cuire des pâtés en croûte.
Donc après ici, cette pièce, c'est la partie où on fait les cuissons en autoclave, tout ce qui est conserve.
D'accord.
C'est un gros autoclave, wow. On fait cuire des bocaux là-dedans.
Alors c'est une espèce de gros four en fonte, on dirait?
En fait, non, il y a un brûleur dessous, là, c'est une enveloppe là pour isoler là, de la chaleur.
Hein?
En fait, c'est comme une grosse cocotte minute, sauf qu'on monte en pression à plus de 110 degrés, là. Donc en fait, faut pas faire n'importe quoi parce que ça chauffe fort. Et en fait, on le met en pression pour cuire à plus de 90. Parce qu'en fait, quand on fait bouillir de l'eau, on monte qu'à 90, quoi, ou 95 maxi. Et là, en fait, le fait de le mettre en pression, ça nous permet de monter plus haut en température et de stabiliser un peu mieux nos conserves. Parce qu'on a des valeurs. On a des valeurs de cuisson qui sont régies par le code de la charcuterie. Il faut monter à 115 degrés pendant X temps. On cuit moins longtemps, mais plus fort. Et en fait, pour éviter tous les phénomènes de botulisme, tous les problèmes qui étaient rencontrés autrefois avec la pertisation des conserves mal gérées, ça a généré des maladies, ça.
Ouais,
là, c'est la partie découpe. Donc, les carcasses arrivent dans ce frigo là-bas, le mardi matin.
Sur la droite, avec des gros crochets.
Voilà, donc il y a des rails, on fait circuler. Après, on les pose ici, on découpe. Donc, demain matin, c'est grosse journée de découpe. Et après, donc, ça, c'est toutes les machines qu'on a besoin pour la fabrication : un hachoir, un mélangeur, une scie pour couper les os là-bas, enfin, scier tout ce qui est côtelette et tout ça.
D'accord.
Et ça, c'est un poussoir.
un poussoir.
C'est avec ça qu'on fait la saucisse, quoi. On met la chair là-dedans, et après on met les cônes ici, on commande avec le genou, et ça nous sort la chair, et on met le boyau.
D'accord.
Et ça, c'est le poussoir.
Ok. Donc tous ces outils sont à proximité du plan de travail.
Ils sont dans la salle de fabrication. Voilà, le mardi, c'est journée des coupes, et mercredi, jeudi, c'est journée fabrication, quoi. Après, ici, c'est le saloir.
Le saloir, d'accord.
Donc là où on sale les jambons entiers.
Donc voilà, on ne voit même pas les jambons tellement ils sont recouverts
dans le sel.
Ouais.
Et après, on sale des pièces comme ça, qui sont toutes les pièces que je fais en charcuterie, style lonzo, copa, noix de jambon.
Ah, c'est des
petites,
tout ça aussi.
C'est les petites pièces qu'on fait trancher. Ouais, ouais, je fais pas
c'est
mal de trucs.
C'est très bon, ça.
C'est pas mal de trucs. Donc là, après, quand ça sort du sel, on le met là, c'est une première salle de séchage, une salle de repos, maturation qu'on appelle. Donc là, on est déjà sur une pièce où on contrôle de l'hygrométrie et de la température.
Uh-huh.
Et on commence à sécher le produit. Mais sauf qu'on travaille à entre 3 et 5 degrés. Mmh. Là, je fais sécher le Melsat. Uh-huh. Voilà.
Ouais.
Et là, ce matin, ils ont sorti du sel, là, des poitrines, tout ça. Donc on les laisse là, qu'elles s'égouttent un peu. Après, on les monte au séchoir.
Il y a une quantité de jambon assez phénoménale. Quelques dizaines, je dirais. Non, il y a combien là, 20-30?
Non, il y a plus que ça sur le chariot. Ouais. Là, on en rentre. Il en va 16, 8 par côté. 1, 2, 3, 4 côtés. 8 x 4, 32, x 2.
X 2, 64.
C'est, met 64 pièces sur le chariot.
Et ça, ça part en une semaine?
Ah non.
Ah.
Ça y reste pendant 2 mois. Là.
Ouais.
Et après, on le monte au séchoir naturel qu'on a en haut.
Hein?
Et après, on a notre rotation quand les jambons sont secs, on les sort. Mais là, nous, on passe 8 jambons à peu près.
Et ça, c'est là, d'accord.
8 jambons secs par semaine.
D'accord.
Ce que je te parlais, là, les lonzo, copa, ouais. Tout ça, ça donne ça une fois sec sous vide. Ouais.
Mais ça, c'est pas très aveyronné, ça, quand même, je sens.
C'est pas très aveyronné. Bon, après, c'est de la charcuterie. C'est vrai que la copa, c'est italien-corse, on va dire. C'est un peu. C'est les Italiens sont très forts dans tout ce qui est salaison. Ouais. Ils font des belles choses, quoi. Donc là, on a un monte de charge qui vous monte les chariots d'en bas, ici.
D'accord.
Et donc après, là, ici, on arrive dans le séchoir.
Waouh, le royaume de la saucisse et du saucisson.
Voilà. Et donc, toi, les copains, les lonzo, ça, c'est ceux qui sont secs. Après, on les met dans des caisses comme ça, en attente de les trancher.
Ah.
Après, là-bas, j'alterne. Après, j'ai des saucisses, des rosettes.
Hein. D'accord.
Des longs saucissons, bon. Fait.
Ah ouais.
On fait de la saucisse au foie, on fait de la saucisse de foie.
Tu fais du chorizo aussi, Jean?
Du chorizo, ouais. Chorizo, saucisse sèche, bon, ouais. Voilà.
Et c'est dommage que le micro prenne pas les odeurs, parce que là, ça sent bon, quoi.
Ouais.
Ça sent le poivre, surtout, non, on dirait?
Ouais. Là, ici, c'est le paradis des jambons et des poitrines.
Oh
ici, on est plutôt sur un séchoir naturel, avec des entrées d'air.
Ouais.
En façade, côté nord, des sorties d'air ici, et j'ai mis un petit ventilo sur minuteur, qui me brasse l'air de la pièce pour...
D'accord, parce que des fois ça suffit pas pour bien mélanger...
C'est surtout pour faire véhiculer l'air, parce qu'en fait c'est assez statique, sinon il faut quelque chose qui brasse l'air.
Ça met combien de temps à être prêt là, une fois que tu le mets en séchage
Mais en fait, entre le moment où on le découpe et le moment où on le vend, on le sort, à peu près il faut compter un an, quoi.
Un an? Ah ouais.
On a un an de stock de jambon, il y a quand même peu d'argent en stock, quoi.
Ah ouais.
Après, bon an, mal an, on en vend 8 par semaine, c'est-à-dire on vend une ligne comme ça par semaine.
Et 8 fois 52, ça
fait... Entre ceux qui est en bas et ceux qui est en haut, parce qu'il y en a, il faut compter ceux qui est dans le sel, parce que dans le sel, j'ai toujours 4 ou 5 lots, parce que je les laisse un mois dans le sel.
D'accord.
J'ai plus ou moins 4 lots dans le sel, 4 semaines de jambon dans le sel, c'est-à-dire un mois déjà. À la maturation, j'ai 10 semaines, donc j'ai de nouveau 8, ça fait... Ça fait 4 à 4, 8, j'ai 2 mois et demi. Donc rien qu'en bas, en stock, j'ai 3 mois et demi. J'ai plus d'un trimestre de jambon.
D'accord.
Donc ici, j'ai que les autres...
T'as les 9 derniers mois, quoi.
Voilà.
Ouais. Merci.
Bon, après, il faut que ça soit efficace.
Ouais.
L'esthétique, c'est bien, mais... Et en fait, ici, c'est la zone un peu où on fait de tout. On reçoit principalement les clients pour ceux qui viennent acheter ici, parce qu'on vend un peu à la ferme, quand même.
Ouais.
Et après, on fait, quand on est emmerdé, on fait de l'étiquetage, tu vois, toutes les conserves en attente de vente dans les caisses, voilà.
D'accord.
Je les stocke là. Après, je veux agrandir devant là-bas parce que je suis un peu kitsch quand même en place. Il me faut un peu plus de place,
surtout
pour les salariés aussi maintenant.
Donc là, j'explique pour les auditeurs, on est dans une petite pièce où il y a un frigo et puis les viandes sous vide, les charcuteries sous vide, plus toutes les conserves en bocaux, en boîte de fer, etc. Et donc on peut venir ici, il y a les prix et tout qui sont affichés. On peut venir chez toi.
Oui, on peut faire de la vente à la ferme. Enfin, on fait de la vente à la ferme. Tous les clients sont les bienvenus. On est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 17h, on va dire, non-stop. Ouais. Même entre midi et 2, j'ai les salariés qui mangent sur place. Si un client arrive, on le sert, quoi. On le fait pas repartir.
Ouais. C'est super. Merci beaucoup, Guillaume.
Eh bien, merci à toi.
D'avoir pris tout ce temps pour...
Il n'y a pas de souci. C'est important ici, voilà, pour les auditeurs de Radio Saint-Taf.
Qu'ils sachent, on est dans un pays où on peut bien manger. Quoi.
Voilà.
Grâce à toi, notamment.
Il y a ma femme qui nous jette.
Bonjour, madame. Bonjour. Il est très sage, pour l'instant, impeccable. Et là, on a fini.
Ouais.
Tous nos remerciements à Guillaume pour cet après-midi passé dans sa ferme. Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que toutes les précédentes sur le site radiosaintafrique.com, rubrique Parole rurale. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.